Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud. Ce soir, nous allons faire, si vous me le permettez, un pas de côté. 10 pays dans le monde sont aujourd'hui préservés de l'épidémie. Alors oui, il y a 10 pays qui n'ont recensé jusqu'à présent aucun cas de Covid. Alors nous allons ce soir nous intéresser à l'un d'eux, la République de Kiribati. Alors ça s'écrit Kiribati, mais on le prononce Kiribati. Elle est perdue au milieu du Pacifique. C'est un archipel à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Il se compose d'une île et de 32 atolls. Et ce petit état de Micronésie compte 110 000 habitants. Mais ce qui étonne les voyageurs qui accostent sur ces rivages, c'est le contraste entre un mode de vie traditionnel et le haut niveau de technologie disponible. Alors, car même si l'on vit dans des cabanes en feuilles de palmier, tout le monde a chez soi un ordinateur et un compte Facebook. Nous sommes ce soir avec Guigone Camus. Bonsoir, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes anthropologue, spécialiste du Pacifique. Vous avez effectué nombre de vos terrains sur ces îles. Alors comprenez-vous pourquoi aucun cas de Covid n'a encore été recensé? Et est-ce, selon vous, dû seulement à l'insularité?
Alors, c'est effectivement étonnant, d'autant que c'est très récent. Les premiers cas entrés aux îles Marshall, on a des cas en Papouasie, on a des cas dans certains endroits du Pacifique. Et c'est d'autant plus étonnant, enfin en tout cas pour ma part ça m'a surprise, puisque Kiribati a noué des relations diplomatiques et une coopération très étroite autour des questions de développement notamment, avec la Chine, au détriment de son ancien allié, Taïwan. La Chine qui a évidemment des intérêts géostratégiques colossaux dans cette zone du Pacifique central, qui y voit un lieu pour son tourisme, mais aussi un lieu d'installation pour des raisons tactiques sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Les deux dirigeants de Kiribati et de la Chine ont assuré faire montre de solidarité face à la crise épidémique du Covid-19, sachant que le principal geste de solidarité de la Chine a été de stopper les lignes aériennes avec les îles, mais relativement tard. Et en janvier encore, en pleine épidémie chinoise, le président de Kiribati était à Pékin pour un voyage diplomatique. Malgré tout, d'après ce que l'on sait et d'après ce que mes informateurs m'ont dit, il n'y aurait pas eu de cas de Covid à Kiribati. Ce qui n'est pas tant dû à l'insularité, mais on ne sait pas exactement est-ce que c'est un coup de chance. Probablement, puisque Kiribati est notamment en lien avec Fidji, par des lignes aériennes 2 à 3 fois par semaine. Et on a eu des cas apportés de l'extérieur, bien sûr, à Fidji. Donc, on craignait l'arrivée du Covid dans ces petites îles extrêmement vulnérabilisées déjà par le changement climatique et par des problèmes de mal développement.
Et pourtant, vous disiez qu'ils ont mis en place un couvre-feu, mais un couvre-feu un peu particulier.
Oui, alors j'ai assez peu d'éléments, mais ce couvre-feu, il a été instauré déjà assez tardivement, en mars, ce qui est quand même étonnant au vu des contacts conservés avec la Chine par Kiribati. Un confinement qui demandait aux populations de moins se déplacer, d'aller moins travailler, mais qui conservait la possibilité de se rassembler dans ce qu'on appelle les botaki, qui sont des grands rassemblements familiaux pour célébrer des anniversaires, voilà, des grands événements qui rythment le cœur de la vie sociale dans cette société. Donc finalement, on était confinés, mais on conservait ce qu'il y avait de plus important. Mais ce qui est aussi une proximité sociale et familiale dont on sait, d'après la situation mondiale, qu'elle est un des facteurs aggravants de la dispersion du virus. Donc on peut imaginer ce qu'aurait donné l'intrusion du Covid dans cette petite société, en particulier, je dois dire, sur l'île de Tarawa, qui est l'île capitale de l'archipel, sur laquelle vivent plus de la moitié des habitants de l'ensemble de cette république indépendante. 60 000 personnes sur un peu plus de 110 000 au total. 60 000 personnes sur 32 km² de terre uniquement, ça fait une densité de population extraordinaire dans un contexte de mal développement, d'accès aux soins extrêmement altéré, donc une proximité et des conditions qui évidemment sont des facteurs propices pour la dispersion du virus, d'autant, et c'est intéressant, que les insulaires de manière générale sont encore très réfractaires, très réticents vis-à-vis de la médecine occidentale, Et souvent, ils oscillent entre des soins médicaux et des soins traditionnels par les plantes, des magies et des manipulations du corps par des guérisseurs et par des sorciers.
Et anthropologiquement, comment la population considère la maladie? Comment la souffrance est-elle prise en charge sur ces îles?
Alors, ces îles, déjà, elles ne sont pas exemptes d'épidémies, bien qu'elles soient protégées du Covid-19 pour l'instant. Elles connaissent la dengue. Depuis 2015 en particulier, on a des épidémies de dengue donc véhiculées par le moustique, qui sont assez dramatiques, notamment avec des formes hémorragiques infantiles très graves. Là, bon, les gens ont très peu de moyens de se protéger de la dengue, c'est-à-dire de se protéger contre les piqûres de moustiques. Je pense aux moustiquaires, je pense aux produits insecticides. Donc, on a peine à imaginer ce que donnerait la nécessité de se préserver du Covid-19 avec des gestes barrières, avec des masques, avec tout un système d'hygiène occidentale qu'il faudrait adapter sans doute au terrain. Alors, c'est difficile, pour revenir à votre question, de faire des projections quant aux conséquences sanitaires et sociales que pourrait avoir un Covid à Kiribati, mais comme vous l'évoquiez, on a quelques éléments qui sont en fait des constats faits sur le terrain, des éléments relatifs à la gestion locale de la catastrophe, à la gestion du risque, qui nous donnent des petits repères anthropologiques, si je puis dire. À Tarawa, en hôpital et en psychiatrie, où j'ai mené des observations, mais surtout dans le sud, où j'ai conduit la plupart de mes terrains, j'ai toujours été extrêmement frappée d'observer la particularité des réactions des insulaires face à la souffrance physique et à la souffrance morale, et notamment au travers de la gestion des émotions face à cette souffrance, et je pense que c'est un point important. On observe sur le terrain que les événements malheureux qui altèrent l'intégrité humaine, mais parfois aussi l'intégrité environnementale, suscite des réflexes réactionnels complexes. Et là, c'est le fruit de témoignages collectés sur place. Les individus disent qu'ils sont saisis dans leur esprit et dans leur corps d'émotions qui, lorsqu'elles se déclenchent, ne s'expriment pas comme nous, observateurs extérieurs, on pourrait s'y attendre. En fait, très souvent, les gens se taisent face à la douleur, ou bien ils se plaisent aussi à ironiser, en fait, sur ce qui se présente à eux comme étant vraiment un péril. Mais de manière vraiment frappante, encore une fois, d'un point de vue extérieur. Et cette expression des émotions, elle fait l'objet d'une très forte régulation en réalité par la société. Ce recours à l'évitement de l'expression des sentiments, par le rire, par le silence, qui sont des stratégies d'expulsion du réel dramatique, permet aux émotions, qui sont considérées comme un des revers de la faiblesse humaine, de rester hors de la prise du champ et du langage de l'autre, et donc de son jugement, du qu'en dira-t-on et de la rumeur. Cette société, elle exerce un contrôle des émotions, des sujets ressentants, un contrôle qui découle sur une généralisation de la retenue, de la pudeur et de l'effacement du soi individualiste. Et si je peux pas m'attarder plus, quand je pense à cette extrême discrétion de l'expression de la crainte et de la peine, mais aussi aux réticences vis-à-vis de la médecine occidentale, on peine à imaginer à quel point cela peut complexifier l'interprétation, l'identification de ce qui fait réellement mal, de ce qui fait réellement peur aux individus, et donc se pose la question du soin médical, un soin médical en tout cas à l'occidental, qui repose sur l'expression du patient, sur sa description précise de ses symptômes et sur l'interprétation de cette parole par un médecin, un infirmier ou que sais-je encore. Donc dans le cas du Covid, comme dans le cas d'autres épidémies, et je le vois aussi pour la dengue, c'est extrêmement compliqué d'intervenir, de porter secours, de savoir même ce dont les gens ont besoin, ce qui pousse parfois à interpréter, à parler à leur place et d'une manière à les infantiliser, alors qu'en fait c'est une incompréhension totale des réflexes culturels si particuliers de cette société qui est absolument passionnante et fascinante et que l'on ne connaît encore pas assez.
Votre ouvrage « T'habiter à Kiribati » est toujours disponible aux éditions Azan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Guigone Camus.
Et merci à vous, Marie Sorbier.